Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et c'est déjà aujourd'hui la dernière journée de notre semaine spéciale Énigme Royale avec Franck Ferrand. Bonjour Franck.
Bonjour Anissa, bonjour à tous. Alors hier nous parlions des prétendants qui au 19e siècle affirmaient être l'enfant de la tour du Temple. Eh bien je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire d'un prétendant qui au 15-16e siècle affirmait être l'enfant de la tour de Londres. Nous parlons en effet aujourd'hui de la mort mystérieuse des enfants d'Édouard IV d'Angleterre en compagnie de Sophie Cassagne-Brouquet.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, Franck vous répondra à la question de Louise sur l'origine de l'expression « la perfide Albion ».
Tout lien avec le sujet d'aujourd'hui serait évidemment purement fortuit. Immergeons-nous à présent dans les brumes de la Tamise.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
La chaleur de l'été tarde à se faire sentir au sein de la tour de Londres. Nous sommes au début de l'été 1483 et l'inquiétante forteresse au bord de la Tamise accueille deux prisonniers tout à fait particuliers, particuliers du fait de leur qualité, quoique des princes à la tour de Londres on en a vu souvent, mais surtout particuliers tant leur âge est encore tendre. Ce sont deux tout jeunes garçons, frêles, vulnérables, de respectivement 12 et 9 ans. Ce sont les fils du roi Édouard IV qui vient de mourir là, quelques semaines auparavant. Théoriquement, l'aîné est le nouveau roi et le cadet est donc son héritier le plus direct. Ils sont détenus là à l'instigation de leur oncle Richard. Richard, c'est le fameux Richard III de Shakespeare, vous savez. Nous allons y venir dans un instant avec mon invité, bien sûr. Ce Richard est régent du royaume, il remet en cause la légitimité des enfants à pouvoir succéder à la couronne. Il faut dire qu'il constitue deux obstacles dans sa propre marche vers le trône. Et en ces semaines d'été, les choses s'arrangent étrangement bien pour Richard. Voilà que les deux obstacles, si je puis dire, disparaissent sans laisser de traces. Plus personne n'entend parler d'eux. Ils sont comme évanouis dans le secret de leur captivité. Alors très vite, leur assassinat ne fait pas de doute et dans le peuple on s'émeut du sort de ces deux jeunes princes innocents. Certains alors se demandent attristés quel aurait été leur brillant destin s'ils n'avaient pas été sacrifiés, comme beaucoup le supposent alors, sur l'autel de l'ambition de leur oncle qui devient donc, alors là cette fois, le roi Richard III. Transportons-nous 8 ans plus tard à Cork, un port qui est au sud de l'Irlande, sur le quai au milieu des badauds qui s'affairent. On voit paraître un jeune homme. Il est très beau, il est d'une apparence incroyablement soignée, rehaussé par la richesse de sa tenue. Il a aussi une certaine distinction, il faut bien le dire. Il est tout jeune, hein, il n'a même pas 18 ans, mais déjà il en impose. Et le moins qu'on puisse dire est qu'il ne passe pas inaperçu dans ce petit port. Il semble qu'on ait affaire à quelqu'un d'important et déjà on se dit, et peut-être même à un prince. Alors on l'interroge, on veut savoir d'où il vient, qui il est, ce qu'il est venu faire ici. Qui est-il ? Il est discret dans un premier temps, le jeune homme en question. Donc certains commencent à se lancer dans le petit jeu des hypothèses. C'est Alain Decaux qui raconte. Quelqu'un cria qu'il s'agissait de Richard d'York, second fils du roi Édouard, celui-là même qu'on pensait avoir été assassiné à la tour de Londres par son oncle. On vint poser la question à l'inconnu. Alors il reconnut modestement qu'il était bien le fils du roi Édouard, miraculeusement échappé. Ça fait son petit effet, bien entendu. Et là où beaucoup auraient été moqués, raillés pour une révélation aussi extraordinaire, le jeune homme semble bien en convaincre certains. Il faut dire qu'il a l'air sincère. Et puis, il faut dire surtout qu'il a les mêmes traits que son père. On reconnaît, on a l'impression de voir le roi Édouard quand on le voit. Alors il raconte son histoire très émouvante, il le raconte avec beaucoup de simplicité et de sobriété. Ça c'est tout le secret, si je puis dire. Oui, il a vu son grand frère tué devant ses yeux à la tour de Londres et au moment où l'exécuteur ou le meurtrier allait le tuer lui-même, eh bien le pauvre homme a été saisi de pitié devant ce pauvre enfant complètement apeuré et il a décidé de l'épargner. Il l'a laissé partir à condition qu'il garde son identité secrète pendant plusieurs années. Il a donc vécu cet enfant caché à l'étranger. Il n'a pu se faire connaître qu'en ce jour, donc dans ce petit port irlandais. Alors bien sûr, il y a de quoi laisser les interlocuteurs pantois. Si on le croit, ce jeune homme est tout simplement le roi légitime d'Angleterre. Richard III est mort depuis, il faut bien le préciser, il a été victime des soubresauts de la fameuse guerre des Deux Roses, guerre dynastique qui a divisé l'Angleterre pendant 30 ans, mais le nouveau souverain qui maintenant est Henri VII Tudor a du souci à se faire s'il s'avère que le jeune homme est bien celui qu'il prétend être. Très vite, la nouvelle de l'apparition de ce prétendant se répand dans les îles britanniques et jusque sur le continent. Alors, elle est souvent mal reçue. En Irlande, le succès est d'ailleurs assez mitigé, mais il y a d'autres endroits où le personnage devient un véritable héros. Le roi d'Écosse, Jacques IV, prête une oreille très attentive à son histoire. Quant au roi de France, Charles VIII, il propose au jeune prince de le recevoir sur ses terres. Quand un peu plus tard, le prétendant se rend aux Pays-Bas, Marguerite de Bourgogne, qui est la tante des deux enfants de la Tour de Londres, le reconnaît sans aucune hésitation. Elle se jette littéralement dans ses bras, elle entend le soutenir. Et d'ailleurs, l'empereur, qui a été chapitré par elle et par sa cour, en va en faire autant. Ce qui veut dire que, dans beaucoup de pays maintenant, ce personnage qui est apparu comme ça un peu mystérieusement est un véritable prétendant, tout à fait candidat à la conquête de la couronne d'Angleterre. Pour ça, il faudrait quand même la retirer, la couronne de la tête d'Henri VII. C'est pas une mince affaire. Le jeune homme sait qu'il a d'ores et déjà des soutiens en Angleterre. Il va se lancer dans le recrutement d'une armée et au début de l'été 1495, à la tête d'environ 1500-1600 hommes, répartis sur une quinzaine d'embarcations, le voilà qui fait voile vers l'Angleterre.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Le mystère est au cœur de l'histoire jusqu'à 15h cet après-midi, l'histoire des enfants de la Tour de Londres. Alors on l'a découvert il y a un instant avec vous Franck Ferrand, un jeune homme, un prétendant, se dit être l'un de ses enfants, effectivement, et il arrive en Angleterre.
Exactement, la côte anglaise approche, les espoirs de notre jeune prétendant prennent une tournure très concrète, bientôt peut-être il marchera sur la capitale, sur sa capitale. Mais comme le souligne Alain Decaux, la faiblesse de son armée éclate au grand jour. Ce corps hétéroclite allait se faire battre, explique Alain Decaux, et se faire battre aussitôt débarqué par les paysans du rivage. Ce beau monde, devant les faux et les bâtons, courut au bateau avec une grande précipitation. Ils n'étaient pas très vaillants, ces soldats-là. L'échec est complètement piteux. Et finalement, l'aspirant roi, après avoir tenté de rejoindre l'Irlande, finit sa pénible expédition en Écosse. Alors il est quand même reçu avec bienveillance en Écosse et même avec un certain faste par le roi Jacques IV. Il faut dire que ça arrange les affaires de Jacques IV, qui tout ce qui peut ennuyer Henri VII d'Angleterre l'arrange, lui, bien entendu. Il est jeune, le roi d'Écosse, et donc les deux jeunes hommes vont s'entendre très bien. Il écoute l'histoire de son, entre guillemets, cousin avec beaucoup d'attention. Et il se dit qu'il pourrait bien jouer de cette pièce-là sur l'échiquier britannique, si j'ose cet anachronisme. Quoi qu'il en soit, on va voir le roi d'Écosse donner à notre prétendant tout le confort dont il a besoin. Surtout, il arrange son mariage avec sa ravissante cousine, Lady Catherine Gordon. Voilà donc le prétendant établi et probablement assez heureux du chemin qu'il a parcouru en quelques années. C'est pas mal quand même. Bon, c'est vrai qu'il y a eu l'échec militaire, mais bon. Il n'est pas question de s'en tenir là. Il est temps maintenant pour le prétendant de se remettre en selle et de courir à la conquête de son royaume. Malheureusement, une nouvelle offensive qu'il entreprend tourne court. Il faut dire qu'au combat, lui-même n'est pas d'une ténacité à toute épreuve. C'est pas un guerrier dans l'âme, ce jeune homme. Mais il est, à ses yeux, et il le dit, le roi légitime. Il doit continuer à croire en son étoile. Bientôt, il va tenter un débarquement en Cornouailles, où un vent de révolte souffle contre Henri VII Tudor. C'est l'occasion à saisir. Voilà donc notre prince qui entend bien agir auprès de toutes sortes de révoltés en tant que Richard IV, véritable roi d'Angleterre. Voilà comment il se présente. Ce qui veut dire que son armée grossit au passage. Et une nouvelle fois, l'espoir est permis. Bien sûr, Henri VII ne reste pas sans réagir. Vous l'imaginez, il envoie des forces armées. Il parvient rapidement à faire reculer son rival. Et notre héros, qui décidément n'est pas très persévérant face au danger, ne tarde pas à prendre la fuite avant d'être débusqué et arrêté. Il sait bien que s'il apparaît comme le survivant de la tour, on va le mettre à mort. Alors une fois qu'il est arrêté, une fois qu'on lui a mis les fers au poignet, il livre une toute autre version de son histoire. Il se nommerait en vérité Perkin Warbeck. Enfin, c'est Warbeck en fait, puisqu'il est le fils d'un riche flamand. Mais les Anglais disent Warbeck. Il a vécu auprès de la communauté anglaise en Flandre. Il a pu apprendre tout ce qu'on peut savoir sur la guerre civile qui sévit de l'autre côté de la Manche. Et il a été mis au courant de la tragédie des enfants de la Tour. Alors il s'est lancé dans cette aventure, dans cette usurpation. Sophie Cassagne-Brouquet précise, dans les jours qui suivent, la confession de Perkin est recopiée par centaines d'exemplaires et proclamée sur toutes les places de marché d'Angleterre. Évidemment, pour Henri VII, c'est très important. On aurait pu penser que tout ça allait mener Perkin vers une lourde condamnation. Eh bien, là, c'est la surprise. Henri VII, qui sans doute est soulagé par la confession de son usurpateur, Henri VII se montre magnanime. Je cite Alain Decaux. Ce personnage de petite extraction ne fut pas jeté dans quelque cachot obscur. Perkin fut logé au palais de Westminster. Ce fait, avec d'autres, a permis à certains historiens de se demander s'il n'aurait pas été le bâtard du roi Édouard IV, ce qui pourrait expliquer à la fois sa ressemblance physique avec le défunt roi et les égards qu'eut pour lui Henri VII. Ainsi, l'histoire n'est peut-être pas aussi simple que le laisse entendre la confession arrachée au jeune homme sous la contrainte et sous la menace. La femme de Perkin, vous savez, la belle Catherine, en tout cas, ne va pas abandonner son mari. Dans la clémence de sa détention, Perkin obtient même qu'elle le retrouve. Pourtant, il n'entend pas arrêter là ses aventures. C'est là qu'on est surpris. En juin 1498, le voilà qui s'échappe, mais décidément meilleur pour convaincre que pour agir, il est de nouveau arrêté par les hommes du roi Henri VII. Alors on se dit que cette fois, ça sent le roussi. On se dit qu'il va être tué. Eh bien non. Henri lui inflige une punition beaucoup plus ironique. Perkin est envoyé à la prison VIP de la couronne d'Angleterre, si je puis dire, c'est-à-dire, vous l'avez compris, à la tour de Londres. S'il est vrai qu'il est l'enfant rescapé de la tour de Londres, c'est un retour à la case prison, si je puis dire, qui ne manque pas de sel. Il en profite d'ailleurs à nouveau pour semer le doute. Voilà ce que nous raconte Morin de Finf. Perkin s'était exclamé en lisant le livre où était relatée la liste des grands personnages morts à la tour. On marque le trépas du second fils d'Édouard, mais c'est à rectifier. Puisque je suis vivant, c'est certain, le royaume d'Angleterre n'a pas fini d'entendre parler de son étrange prince survivant.
Perkin Warbeck, qui prétend être l'un des enfants de la Tour de Londres. Voilà l'histoire que vous raconte Franck Ferrand cet après-midi jusqu'à 15h sur Europe 1. Vous pouvez bien sûr réagir à cette émission. Rendez-vous sur Twitter avec le hashtag ACDH ou sur la page Facebook Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand revient dans un instant.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Le mystère des enfants de la Tour de Londres avec ce fameux Perkin Warbeck qui prétend être l'un de ces enfants de la Tour de Londres. Finalement, il y retourne puisqu'il est actuellement enfermé dans la tour, Franck.
Voilà, alors on l'a dit, il y a dans cette Tour de Londres un certain nombre de hauts personnages, des princes emprisonnés, et au moment où Perkin y est incarcéré, je ne sais pas comment il faut dire, il a l'occasion de croiser un jeune homme important qui lui aussi est enfermé, c'est Edward de Warwick. C'est un membre de la maison de York, comme tels les deux enfants disparus dans la tour. Je cite de nouveau Morin de Finf. Le jeune prince d'York n'avait pour ainsi dire jamais connu la liberté. Il vivait avec résignation la plus triste des existences et ne fut pas long à entrer en contact avec Perkin. Il fut bientôt conquis et crut aveuglément en son identité royale. Se trouver avec un fils d'Édouard fut pour le jeune Warwick comme si la lumière avait pénétré tout à coup à flot dans les ténèbres de sa triste captivité. Il se remettait à vivre en écoutant les récits si vivants de celui qu'il croyait son cousin et le chef de sa maison. Encore une fois, notre prétendant sait convaincre. Il se lie donc étroitement avec celui qu'il n'appelle plus que son gentil cousin. Bien qu'enfermé, Warwick est assez riche, il est même très riche, et surtout le jeune prince dont la santé mentale, disons-le, et pour cause du fait de cette longue incarcération, laisse fortement à désirer, ce jeune prince est avide de liberté. Et on va voir les deux jeunes captifs se prendre à rêver. On peut les imaginer en train d'élaborer leur stratégie pour remettre leur noble maison sur le trône d'Angleterre. Seulement pour cela, il faudrait quand même commencer par quitter cette satanée tour de Londres. Alors ils vont mettre un plan à exécution. Après avoir graissé la patte de plusieurs gardiens corrompus, ils se déguisent et ils parviennent à quitter leur prison. Ils arrivent d'ailleurs assez facilement à sortir. Quand je dis assez facilement, peut-être trop facilement, c'est louche cette histoire. Les voilà maintenant sur les bords de la Tamise, ils n'en croient pas leurs propres yeux, hein. Ils sont libres. Ils se mettent à la recherche d'une embarcation qui était là censée les attendre, ils la voient, ils la rejoignent, ils se font conduire vers un quartier animé de la capitale, où, pensent-ils, ils vont pouvoir célébrer le début de leur nouvelle vie. Ils entrent dans une taverne, ils se laissent porter par l'atmosphère de liberté, ils sont heureux, ils ont réussi, on se congratule. Ben oui, ça dure pas longtemps. Des gardes font irruption, les arrêtent. Là, cette fois, la fête est finie. Et cette fois, leur condamnation à mort est irrévocable. Contrairement à son gentil cousin, qui lui est de rang princier, tout à fait officiel, et qui va donc être décapité, Perkin n'a droit à aucun égard. Lui va être pendu comme le dernier des va-nu-pieds à Tyburn, qui est le lieu d'exécution de la capitale anglaise. Terrible lieu que les potences de Tyburn. Mais alors qu'il se sait promis à cette mort affreuse et dégradante, le prétendant ne perd pas espoir. Il a toujours des soutiens. Il y croit encore. Il veut y croire. Alors que son père, alors quand je dis son père, je parle du sieur Warbeck, hein, de ce flamand qui est son père réel ou d'adoption selon la thèse qu'on adopte, son père lui rend visite en prison, Perkins lui aurait dit, je le cite, « Il vous reste 2 jours pour agir en ma faveur, j'ai des amis partout, vous êtes riche, soyez présent à Tyburn, et si vous avez pu quelque chose, levez la main droite très haut vers moi, à ce moment-là je saurai que, même au dernier instant peut-être, mes amis m'arracheront à la potence. » Le 23 novembre 1499, c'est le jour de la pendaison. Le jeune Perkin est donc mené vers l'échafaud, vers le bourreau. Ses yeux balaient la foule, il cherche cette fameuse main levée qui lui annonce qu'on va le libérer, bien entendu. Il y a des partisans dans cette foule, c'est certain, n'est-il pas après tout le véritable roi d'Angleterre? Est-ce qu'il le croit, est-ce qu'il l'a fait croire? J'en sais rien, moi. Enfin, il le voit, ce bras levé. Son père, il est là, fidèle jusqu'au bout. Alors que Perkin sent déjà la corde qu'on est en train de lui passer autour du cou, il voit en effet se lever cette main salvatrice. Elle se détache au-dessus de la foule. Un rayon de soleil passe sur le visage du condamné. Et puis son corps est précipité. Ses jambes remuent à la recherche d'un appui introuvable. Ultime souffrance et puis la mort qui s'empare de lui. Son aventure est finie. Est-ce qu'il a eu le temps de comprendre qu'en fait son père a seulement voulu l'aider en lui donnant un dernier espoir? Enfin, je dis son père, à moins que le sieur Warbeck n'ait jamais été son père. Bonjour Sophie Cassagne-Brouquet. Alors vous êtes l'auteur d'un ouvrage sur des meurtres à la cour de Richard III, on va y venir dans un instant, et voici ce que vous écrivez. Cela reste une énigme sur laquelle ni Richard III, ni son successeur Henri VII n'ont jamais voulu se prononcer. L'énigme en question, c'est la mort très mystérieuse, la disparition tout à fait nébuleuse des fils de l'ancien roi Édouard IV. Les princes ont disparu corps et biens sans laisser de traces et sans que personne, pas même leur mère ni leur sœur, ne cherche à retrouver leur dépouille par la suite. Les innocentes victimes ont cependant continué à hanter l'histoire politique anglaise de leurs fantômes désincarnés, symbole même d'une mauvaise conscience nationale. Était-il vraiment mort, après tout? De temps en temps, un imposteur se faisait passer pour l'un d'eux. Il était rapidement démasqué, mais l'espoir fou demeurait.
15h sur Europe 1.
Qui étaient les enfants de la Tour de Londres? Sont-ils vraiment morts dans cette Tour de Londres? Voilà toutes les questions que l'on se pose cet après-midi jusqu'à 15h avec vous, Franck Ferrand, et avec votre invité. Vous recevez Sophie Cassagne-Brouquet, professeure d'histoire médiévale à l'Université de Toulouse et auteure de Meurtre à la cour de Richard III, paru chez Larousse.
On a évidemment, Sophie Cassagne-Brouquet, l'image d'un Richard III tyrannique, épouvantable, sanguinaire à souhait, puisque c'est l'image que Shakespeare a voulu nous donner. Et nous verrons dans le cours de cette émission qu'il faut peut-être nuancer un peu cette image et ce portrait. Alors d'abord, revenons à notre énigme, c'est le sujet même de cette semaine particulière. Les enfants d'Édouard IV sont, et ça c'est incontestable, c'est historique, emprisonnés par leur oncle. Quelle idée de les jeter comme ça à la Tour de Londres?
Alors officiellement, ils ne sont pas emprisonnés. Officiellement,
on
les met à l'abri.
Ah voilà. Nuance.
Le roi meurt, leur père meurt. L'aîné était élevé en Galles, puisqu'il était prince de Galles. Donc, Richard le fait revenir.
Il a 11 ans.
Il a 12 ans. On le nomme déjà Édouard V, mais il est prévu un couronnement. Mais comme curieusement, ce couronnement est reporté. Puis quant à l'autre, le plus petit Richard, donc, dont on a parlé, lui, il était avec sa mère, il a 8 ans. Et sa mère, dès qu'elle a appris que Richard s'était emparé, entre guillemets, du frère aîné, s'est réfugiée à l'abbaye de Westminster, en terre religieuse. Et donc, pendant tout le mois de juin, juillet, il va y avoir des négociations âpres. Richard va envoyer toutes sortes d'évêques, cardinaux, pour demander à la mère de mettre les deux frères ensemble. Mais il faut rappeler quand même que la Tour de Londres, ça n'est pas que...
C'est pas seulement une prison.
Voilà. Et c'est pas simplement la White Tower, celle qu'on imagine, la Tour de Guillaume le Conquérant. Ça, c'est une prison d'État, c'est une prison VIP. Il y a des appartements qu'on peut voir encore une partie, mais il y a des appartements tout à fait confortables qui étaient contre les remparts, sur les bords des remparts, et qui avaient l'avantage d'avoir, donc, comme on l'a vu, une porte sur la Tamise. Et... très souvent, les rois d'Angleterre habitaient dans cette partie-là, justement en période un peu de trouble, de régence. Mais voilà.
C'était un peu l'équivalent du Vincennes parisien, si je puis dire. C'est un lieu de refuge pour les rois, en fait.
Voilà, hein, c'est tout à fait. Mais c'est très confortable. Hein, c'est des appartements, c'est pas du tout un château. Donc, officiellement, on dit que ces enfants seront beaucoup mieux là. S'il y avait une émeute dans Londres, on pourrait les transporter par la Tamise. Et donc, voilà. Et puis, donc, pendant tout le mois de juin, des témoins, donc je parlerai des témoins, un peu, si vous voulez, après.
On est en 1483, là.
Voilà, on est au mois de juin 1483, le roi Édouard est mort en avril. Donc, on avait proposé un couronnement du petit Édouard le 4 mai. Il est reporté au 25 juin. Et pendant le mois de juin, les témoins nous disent, oui, on les voyait jouer dans les jardins. Donc, les appartements.
Donc, ils ne sont pas en cellule.
On les voyait jouer dans les jardins. Puis après, on les voit aux fenêtres. Et puis après, au mois d'août, on ne les voit plus du tout.
Et voilà.
Voilà. Et, fait troublant, fin août, alors des rumeurs montent là, et la reine ne les réclame plus. La mère.
Comme si elle était au courant de quelque chose.
Leur mère ne les réclame plus. Oui. Donc ça, c'est le fait le plus troublant.
Et ça, pour les historiens, c'est un moyen pratique parce qu'il n'y a plus de traces des demandes officielles que pourrait faire la mère pour réclamer ses enfants. Donc là, ça veut dire qu'on entre dans le silence, en quelque sorte. Silence des archives, silence de la mémoire. Et c'est là que prospère la rumeur, forcément. On se met à dire, et si on les avait assassinés? Alors, assassinés comment? On a une idée de...
Alors... on ne sait pas. Alors, ensuite, parmi...
On ne sait pas, mais pardon, au risque de choquer certaines oreilles sensibles, disons que l'habitude, alors ça, c'est dans beaucoup de cours d'Europe, et notamment d'Europe du Nord au Moyen-Âge, quand on a des héritiers gênants, c'est de les étouffer. Hein. Voilà, c'est comme ça qu'on procédait, généralement.
Ça, c'est l'hypothèse donc de Thomas More, qui quand même écrit...
Une bonne génération après, quand même.
Et qui dit que oui, on les a étouffés avec un coussin. Enfin, il imagine. Mmh. Alors là, lui, il rend responsable Richard III. Mais à l'époque, les témoins oculaires disent, n'ont pas d'hypothèse. Ils disent, on ne les voit plus. Le médecin d'Édouard IV, donc, qui était un médecin italien, dit, la dernière fois qu'il a vu le jeune... Édouard V, le plus grand des deux. Édouard V lui a dit « Priez pour moi, je crois que je n'en ai plus pour très longtemps à vivre ».
Donc, mais parce là, qu'il se sentait menacé ou parce qu'il était malade? On ne sait pas tout
non,
ça.
Non, il n'était pas malade.
Il n'était pas malade. Mais il était très...
C'était un enfant très précoce.
J'allais dire, il était très mûr. Hein,
oui,
s'il avait...
tout le monde le reconnaît. C'était un enfant très précoce.
Est-ce qu'on peut imaginer que la soif de pouvoir de son oncle Richard, qui va devenir le roi Richard III, aurait pu expliquer cette disparition, comment dirais-je, à la turque, à l'ottomane?
Alors, oui, bien sûr. Évidemment, Richard III veut prendre le pouvoir, c'est pour ça qu'il retarde le couronnement. Mais on peut dire aussi que c'est une erreur politique, parce que la majorité pour un roi en Angleterre est 15 ans. Il lui restait 3 ans hein, pour faire quelque chose. Donc, comme on l'a dit pour Napoléon, ça n'est pas simplement un crime, c'est une erreur politique. Donc c'est assez curieux, parce que Richard III n'est pas un imbécile, loin de là. Donc... Il peut y avoir d'autres personnes à qui le crime profite.
Alors nous avons eu l'occasion pendant le cours de cette semaine d'évoquer le mythe du roi caché, le fameux mythe du roi caché. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un héritier disparaît comme ça dans le plus grand mystère, on a connu ça en Russie aussi avec Dimitri, hein, par exemple. On a connu ça bien sûr au Portugal avec le roi Sébastien. Et puis nous en parlions hier avec Louis XVII, bien sûr en France au moment de la Révolution. À partir du moment où un enfant roi disparaît, le peuple, l'imaginaire collectif veut le voir renaître quelque part. Et il ne manque jamais de prétendants pour se présenter. Alors, il y a eu plusieurs prétendants qui ont dit « je suis Édouard V ». Ce qui est intéressant avec celui dont j'ai parlé tout à l'heure, avec notre Perkin Warbeck, c'est que lui ne dit pas « je suis Édouard V », il dit « je suis Richard IV ». Je suis le petit frère qu'on n'a pas osé égorger parce qu'il était trop petit et trop fragile. D'ailleurs, il est sur la couverture de votre ouvrage « Meurtre à la cour de Richard III ». Il y a le fameux tableau tout à fait 19e, un tableau d'histoire de Delaroche qui montre, c'est poignant et c'est beau, qui montre ces deux enfants littéralement terrifiés. Ils doivent être en train d'écouter la clé qui tourne dans la serrure de leur chambre. Ils savent ce qui les attend. Hein, c'est terrible.
Alors, c'était plus habile, effectivement, de se présenter comme le petit frère qui était très mal connu. Il était resté dans l'hôtel de sa mère.
Personne ne s'était intéressé à lui.
Alors que Édouard IV avait quand même fait des apparitions. Édouard V, pardon, avait fait des apparitions en public. C'était plus malin, à la limite.
Donc, quand vous dites que c'était plus malin, vous avez pris parti, si je puis dire. Vous êtes convaincu que ce Warbeck était bien un imposteur, un usurpateur.
Oui, la confession n'a pas été. La confession qu'il a faite n'a pas été dictée. Il n'a pas été torturé. Il a pas. Oui. Le fait qu'il ait été reconnu par sa tante, Margaret de Bourgogne, la femme de Charles le Téméraire, elle était partie prenante et elle aurait reconnu, je crois, n'importe qui pour embêter les Tudors.
Oui. Et c'est-à-dire qu'on se rend compte que les souverains qui vont reconnaître ce prétendant, qu'il s'agisse du roi d'Écosse, du roi de France, de l'empereur même, ce sont toujours des opposants directs au roi d'Angleterre, au roi Henri VII en l'occurrence, parce que alors Richard III est mort entre-temps. Pourquoi Henri VII se serait-il montré à ce point clément envers ce jeune usurpateur? C'est quand même étrange.
Alors parce qu'il y a une autre rumeur qui est que c'est Henri VII qui a fait tuer les enfants d'Édouard. En effet, si on regarde à qui profite le crime...
Là, ça devient très étonnant.
Richard, il y a trois candidats. Hein. Donc il y a Richard, bon ça c'est connu. Il y a un autre personnage qui s'appelle Henri, duc de Buckingham. Henri Stafford, duc de Buckingham, qui lui aussi a du sang plantagenêt, lui aussi descend d'Édouard III, et qui, comme par hasard, dès que les enfants sont arrêtés,
sont mis en résidence,
il devient le principal soutien de Richard. Et puis, on le voit très bien dans la pièce d'ailleurs de Richard III, et il va ensuite trahir Richard III pour lui devenir roi, parce qu'il lui aussi peut être un prétendant. Et troisième personnage, donc c'est Henri Tudor. Alors Henri Tudor, c'est lui aussi un prétendant. Mais un prétendant doublement bâtard, c'est-à-dire qu'il est sa mère, il a du sang plantagenêt mais par des bâtards, et il a du sang York par des bâtards.
C'est
mais
ça.
Sa mère est une dame de fer.
Il a très peu de légitimité à régner,
voilà.
Lui. Hein.
Voilà. Mais sa mère est une dame de fer, Marguerite Beaufort, qui a consacré sa vie à faire de son fils un roi. Et lui, donc, il aurait tout intérêt à mettre le crime, dans un premier temps, sur le dos de Richard III, et puis ensuite... se présentant comme le défenseur des enfants d'Édouard, et d'autant plus qu'il épouse la sœur des enfants d'Édouard. Et ce qui est troublant, c'est qu'il ne les fait jamais rechercher.
Ça, c'est oui, parce qu'il sait ce qui leur est arrivé.
Il ne les fait jamais rechercher. Il ne parle même jamais d'eux.
Ah, oui.
Quand il devient roi, donc après la mort de Richard III sur le champ de bataille.
Il devient le roi Henri VII. C'est le père du célèbre Henri VIII.
Il ne fait ouvrir aucune enquête sur la mort des enfants. Il n'en parle jamais. Il ne fait pas construire une tombe. Et sa belle-mère, la mère des enfants, ne fait rien non plus. Et sa femme, la sœur des enfants, ne fait rien non plus. C'est la reine d'Angleterre.
Du coup, il devrait se montrer d'autant plus dur envers celui qui essaie de se faire passer pour le petit prince Richard, pour le survivant de la Tour de Londres.
Oui, mais je pense qu'il est très gêné aussi.
Il est gêné, oui. Il est gêné et à la limite, ça peut le servir. Ça peut le servir qu'on pense que l'un des deux est survécu.
Et oui, plutôt que de le traiter. Peut-être s'il l'avait mis trop en avant. Là, il l'enferme, mais il lui donne un peu d'argent. S'il le met trop en avant, l'autre va passer pour un martyr.
Il lui fait écrire une confession qui va être lue partout en Angleterre, sur la moindre place de village, pour bien montrer la légitimité et pour asseoir la légitimité du roi Henri VII, en vérité.
Le danger aussi de tous ces prétendants, c'est le danger d'en faire des martyrs.
Eh oui, voilà. Vous dites de tous ces prétendants, parce qu'il faut dire que dans l'histoire d'Angleterre, il y en a eu un certain nombre.
Oui, oui, oui. Il y a peu de rois d'Angleterre qui meurent dans leur lit à cette époque-là. Je pense, alors, à Richard II. Hein. Richard II, donc, lui, son trône est usurpé par son propre cousin, le fondateur d'ailleurs de la dynastie des York. On sait que donc il a été tué, on a vu son cadavre, il est mort, mais probablement on l'a laissé mourir de faim et de soif pour que le cadavre ne soit pas altéré. Et là, tout de suite, dès qu'il. Donc on est en 1399, c'est presque 100 ans avant. Et là, les rumeurs, voilà, on voit apparaître plein de faux Richard II, parce que le cadavre a été caché, évidemment, vous ne voulez pas le monter. Et finalement, Henri IV, donc, qui est le cousin qui a tué Richard II, va le montrer, ce corps. Il va être obligé au bout d'un moment de le montrer.
Voilà, pour se justifier,
voilà,
en fait.
Pour le justifier. Ouais. Mais entre-temps, il y a eu beaucoup de faux Richard II.
Oui, il y a eu beaucoup de rois d'Angleterre qui sont morts dans le sang, si je puis dire. Cette histoire médiévale anglaise est particulièrement sanglante. Le titre de votre ouvrage le dit, du reste. Et ça fait un peu penser à Agatha Christie en même temps. Meurtre à la cour de Richard III, c'est chez Larousse. Alors, avec vous, Sophie Cassagne-Bouquet, nous allons revenir maintenant sur le personnage même de Richard III, parce que les circonstances font que depuis quelques mois, depuis quelques années, on vient d'en apprendre des vertes et des pas mûres sur ce personnage.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Il était le frère cadet du roi Édouard IV. Richard III est au cœur de l'histoire aujourd'hui puisque on parle d'abord de ses enfants de la Tour de Londres, morts dans la tour, et puis de celui qui a pris la place d'Édouard IV, le fameux Richard III, dont Shakespeare a écrit une grande pièce.
Qui était régent, qui était l'oncle d'Édouard V, celui qui aurait dû devenir Édouard V, et qui donc a été très probablement tué à la Tour de Londres. D'ailleurs, on a retrouvé des squelettes d'enfants dans la tour, ça, il faut le dire, Sophie Cassagne-Brouquet.
Oui, alors on a retrouvé en 1674 deux squelettes au pied d'un escalier de la Tour de Londres. Alors bien sûr, à cette époque-là, la pièce de Shakespeare a été créée, donc on se dit immédiatement, ce sont les enfants de la tour, comme on les appelait déjà à l'époque, hein, au Moyen-Âge. Et donc ils vont être enterrés solennellement à Westminster. Mais évidemment, à l'époque, on n'a pas les moyens d'investigation qu'on a aujourd'hui. Alors il y a eu quand même en 1933 une enquête anatomique. Alors ce sont bien des squelettes de garçons, et ça correspondra à peu près aux âges. Évidemment, maintenant qu'on a le squelette de Richard, ça serait extraordinaire de faire de l'analyse à l'ADN. Si
et nous revoilà avec l'ADN. De toute façon, sur ces sujets-là, on ne peut quasiment pas y couper. Puisque maintenant, on a le cadavre de Richard III, on pourrait comparer, puisqu'ils sont York.
C'est son neveu, oncle et neveu.
Ce serait très facile, d'une certaine manière. Hein. Alors ce cadavre, venons-y justement à ce cadavre de Richard III qui a tellement fait parler de lui l'année dernière. L'année dernière ou il y a deux ans Il y a deux ans, je crois. Et on a donc retrouvé la sépulture oubliée de Richard III. Dans quelles circonstances? C'était étonnant, ça.
Alors, donc Richard III est mort sur le champ de bataille. Vous connaissez la phrase « Un cheval, mon royaume pour un cheval ».
Mon royaume pour un cheval.
Dans Shakespeare. mais qui existe déjà dans des ballades du Moyen-Âge. Hein. Et Henri VII, qui ne se montre pas toujours très élégant, Henri VII a refusé de lui donner une sépulture à Westminster, et il a été enterré dans une église donc de franciscains de Leicester, la ville de Leicester. C'est, évidemment, la réforme est arrivée, ce couvent a été détruit. On sait que Henri VII avait refusé même une tombe, il avait juste une dalle, sans nom dessus, rien. Ce qui était beaucoup choqué, hein, même pour l'époque. Finalement, cette dalle, au XVIIIe siècle, était devenue le seuil d'une auberge où on attachait les chevaux. Et puis, en creusant pour un parking... sur l'ancien emplacement du couvent, on a trouvé un corps.
On est tombé sur Richard.
On est trouvé sur ce corps qui pouvait être un corps du XVe siècle et qui avait notamment la trace de la lance qu'il avait tuée, un trou dans la nuque. Donc là, ça faisait beaucoup de coïncidences. Et puis comme il y a un lointain descendant aujourd'hui, l'ADN a matché, comme on dit, et donc c'est bien lui.
Donc, on l'a réinhumé, hein, il faut dire
voilà,
ça. On est en Angleterre, il ne faut pas oublier, donc on est très respectueux de toutes ces choses-là, bien
surtout
sûr.
Surtout de Richard III.
Alors, c'est ça l'étonnement. C'est qu'on a, nous, notamment de ce côté-ci de la Manche, l'image d'un Richard III absolument infréquentable, mais ça n'est pas tout à fait l'image qu'il a en Angleterre. Il y a des adeptes de ce roi là-bas.
Oui. Il y a une très puissante Richard III Society. Il y en a trois grandes puissantes sociétés historiques en Angleterre. Il y a celle de Cromwell, celle du duc de Marlborough et celle de Richard. Et elle a fait édifier d'ailleurs, il y a quelques années, une sculpture à Leicester, proclamant que la vérité était enfin apparue et que la bonté du roi était proclamée. Et dans le nord de l'Angleterre, notamment à York, puisque c'était Richard York, c'est le grand homme, parce qu'effectivement, Richard a été un bon roi pendant le très court règne, pas tout à fait 3 ans qu'il a eu. Il fut un très bon roi, très aimé.
D'où vient cette légende noire qui fait de lui un assassin, un bourreau, un meurtrier, un tyran, tout ce qu'on veut?
Eh bien, parce que Shakespeare écrit pour les Tudors.
Et voilà, il écrit pour la maison
d'en
face.
Elisabeth Tudor.
Eh oui.
Alors, le premier...
Qui est elle-même la fille d'Henri VIII, donc la petite-fille d'Henri VII.
La petite-fille de son assassin.
Mais oui.
Et en plus, Shakespeare s'inspire d'un texte qui a été écrit par un humaniste italien, Polydore Virgile, qui était l'humaniste de cour d'Henri VII. Donc il reprend le texte, et il y a Thomas More qui est un proche d'Henri VIII. Donc, malheur au vaincu. Malheur au vaincu.
Mais oui, vae victis.
Voilà.
Et donc on va vouer ce pauvre Richard III aux gémonies des siècles. Il est vraiment, il a été traîné dans la boue. Et vous nous dites, ça n'est pas tout à fait le cas. De quels éléments dispose-t-on aujourd'hui, lorsqu'on étudie cette époque, pour réhabiliter le roi Richard?
Alors déjà, on peut dire que dans sa propre famille, son frère aîné Édouard a fait assassiner le frère. Il y avait 3 frères, Richard est le plus jeune des enfants. Leur mère avait 11
facile,
enfants.
Hein, au passage,
donc
hein,
il avait fait tuer le frère Georges, alors que Richard avait refusé. Il a un comportement très fidèle au roi, à son frère le roi. Il va être toujours fidèle, il ne va jamais comploter contre lui, à l'inverse de tous les autres membres de la famille. Et dans cette famille, il y a aussi une haine féroce avec la femme d'Édouard IV, la mère des enfants,
voilà,
dont la famille est un gang, je ne peux pas l'exprimer autrement.
Qui est cette famille? Ça, c'est incroyable.
Alors, la reine... Alors, Édouard IV, donc le père des enfants de la tour, est roi très jeune. Il a 18 ans. Il fait 1m90. C'est un très beau garçon, tous les contemporains nous le disent. On espère pour lui un très beau mariage. Et on apprend qu'il s'est marié secrètement avec une veuve qui a plus de 30 ans.
Elisabeth Woodville.
Qui... n'est pas de petite noblesse et qui en plus a des enfants adultes d'un premier mariage et qui était dans le camp opposé, le camp des Lancastres. Alors évidemment, toute la cour est furieuse et la propre mère d'Édouard IV, quand elle apprend ça, dit « Mais non, en fait, mon fils est un bâtard que j'ai eu quand j'étais à Rouen avec un archer
qui était dans l'armée. »
Et donc, Richard va jouer d'ailleurs de cette histoire. Elle est très connue. La reine-mère l'a proclamée publiquement « Mon fils n'est qu'un bâtard ». Et donc, du coup, si Édouard IV est un bâtard, ses fils sont des bâtards. Alors que Richard, lui, n'est pas un bâtard.
Et voilà. Donc ça pourrait donner un peu plus de légitimité encore à Richard III. Il y a dans cette famille de Woodville un certain nombre de personnages terribles, hein, il faut
le dire.
Oui, hein,
c'est... Donc il y a les fils de la reine, il y a le père de la reine, il y a les frères de la reine. Alors il y en a un qui s'en sort pas trop mal, qui est Lord Rivers, qui est un homme assez chevaleresque, que Richard va d'ailleurs assez vite faire assassiner. Mais tous les autres, le plus jeune frère, à peine sa sœur, est-elle reine, qu'il épouse une duchesse douairière âgée de 80 ans alors qu'il a 18 ans pour s'emparer de ses biens.
On va faire ça un mariage de raison. D'habitude, c'est dans l'autre sens. Hein. Ce sont des barbons avec des petites jeunes filles. Ben là, c'est l'inverse, en fait.
Cette famille est universellement détestée. Alors là, tous les chroniqueurs sont absolument... Il n'y en a aucun qui n'a d'avis contraire. Tous les chroniqueurs détestent cette reine. Vous avez actuellement, d'ailleurs, j'en profite, une très bonne série de la BBC qui s'appelle The White Queen, qui raconte l'existence de cette reine.
On ne l'a pas en France encore,
non,
hein, je ne crois
non,
pas.
Non.
Hein.
Donc
il faut aller la piocher
voilà,
sur les sites, etc.
Excellente série, bien faite, on voit tout, c'est parce qu'on n'a pas besoin de rajouter de fiction à cette réalité historique.
En tout cas, ce qui est au cœur de toute cette histoire anglaise médiévale, c'est une question de légitimité, c'est une question dynastique, beaucoup de guerres, beaucoup d'assassinats, pour le pouvoir et pour la légitimité dynastique. Ce qui avait été accompli avec les Capétiens en France était loin de l'être en Angleterre. Hein. Le pouvoir était encore vacillant, il faut le dire.
Oui, la guerre des Deux Roses, c'est une guerre civile, on a dit, qui a duré 30 ans et qui a littéralement décimé la noblesse anglaise. Ça n'a pas touché le peuple, hein. C'était des batailles.
Oui, c'est les grandes familles qui se battent entre elles.
Entretués.
Oui.
On peut dire que quand Henri VII prend le pouvoir, il n'y a pratiquement plus personne, le vide a été fait. Et Richard III était vraiment, lui, quelqu'un qui était vraiment persuadé de sa légitimité. À peine avait-il usurpé le trône, il s'est fait couronner avec l'assentiment général. Il a fait un tour d'Angleterre absolument triomphal. Le peuple l'adorait. Mais, voilà, on ne peut pas juger avec nos yeux d'aujourd'hui... ce comportement politique qui, en fait, en Angleterre, était très courant, qui choquait beaucoup en France. Hein.
Oui, bien sûr. Enfin, on affectait d'être choqué, d'autant plus à la cour de France qu'on était les ennemis, évidemment, héréditaires. Je vous propose précisément de traverser la Manche, Sophie Cassagne-Brouquet, pour évoquer votre dernier ouvrage qui vient de paraître aux éditions Ouest France et qui s'appelle « Reine du Moyen-Âge, du XIe au XVe siècle ». Alors là, on parle de reine française.
De reine française, oui. Pour certaines, il y a d'ailleurs des mystères.
Ah oui, avec de belles histoires, y compris des histoires un peu sordides, il faut bien le dire.
Oui, mais... je pense notamment au mariage de Philippe Auguste avec
Ingeborg.
Là, il y a un mystère aussi qu'on n'a pas éclairci.
Magnifique histoire. Et ces reines, on les a complètement oubliées.
Oui.
Nous sommes nombreux à faire profession d'histoire et on serait bien en peine de citer les reines, les épouses d'un certain nombre de nos rois de France.
Il y a deux figures qui dominent, Aliénor d'Aquitaine et Blanche de Castille.
Oui.
Mais des reines... elles sont totalement inconnues, ce qui n'est pas le cas du tout en Angleterre, où depuis très longtemps on a écrit des histoires des reines, à cause de la reine Victoria.
Et oui, peut-être aussi, oui bien sûr, et de l'actuelle souveraine, mais en France, la reine est somme toute un personnage évanescent, il faut bien le dire, au Moyen-Âge. Ouais. Il ne compte pas, elle est là uniquement pour donner des enfants.
Ben, c'est pas du tout le cas, non justement, quand on pense à des reines comme Blanche de Castille, elle a co-dirigé le royaume, son fils avait plus de 30 ans, hein, Saint-Louis. Elle donnait encore son avis, et donc là, on parle d'une régente, mais enfin bon, il avait quand même plus de 30 ans, elle dirigeait toujours le royaume.
Nous avions, à l'occasion d'une émission sur Anne de Kiev, l'épouse de Philippe Ier, montré à quel point certaines femmes ont eu un rôle essentiel dans la naissance de cette dynastie capétienne et dans son développement, évidemment.
Oui, oui.
Donc c'est un très beau livre puisqu'il est illustré avec notamment de nombreuses miniatures qui ont presque été agrandies par rapport à leur taille originale.
Oui, oui.
Et ce qui permet de se plonger dans cet univers tellement méconnu et en même temps tellement onirique du Moyen-Âge. 11e, 15e siècle, c'est la belle époque du Moyen-Âge, si je puis dire. C'est un Moyen-Âge qu'on a appris à découvrir lumineux et non pas tellement obscur comme on l'a si longtemps cru.
Un petit peu obscur.
Alors évidemment, ce qu'on a raconté, là, c'était pas seulement obscur, c'était poisseux de sang, ce qu'on a raconté. Votre ouvrage sur Richard III s'appelle « Meurtre à la cour de Richard III ». C'était édité chez Larousse il y a quelques années, on peut encore le trouver. Merci beaucoup, Sophie Cassagne-Brouquet.
Et dans un instant, nous restons en Angleterre, puisque Franck Ferrand vous donnera l'origine de l'expression « perfide Albion » pour désigner l'Angleterre.
Europe 1,
retour aux origines.
Et aujourd'hui, nous restons en Angleterre, Franck, puisque c'est Louise, sur la page Facebook de l'émission Au cœur de l'histoire, qui vous demande pourquoi utilise-t-on l'expression « perfide Albion » pour désigner l'Angleterre ?
Parce qu'ils sont perfides, les Anglais, je pense que c'est ça la raison. Moi, je les aime et ils savent à quel point je les adore, donc je peux me permettre ce genre de plaisanterie. Vous savez que de la guerre de 100 ans jusqu'à la Première Guerre mondiale, jusqu'à ce que nous devenions alliés, un tout petit peu avant la Première Guerre mondiale, avec l'entente cordiale, eh bien, ça a été notre ennemi héréditaire, bien entendu. On a la trace de l'expression perfide Albion à partir de 1793. On était dans les tout débuts de la République. Et Augustin, marquis de Riménès, nous dit « Attaquons dans ses eaux la perfide Albion ». Voilà, cette fois c'est écrit « Que nos fastes souverains par sa destruction marquent les jours de sa victoire ». Alors, le terme perfide, il a longtemps et depuis longtemps été utilisé à propos de l'Angleterre. C'est Madame de Sévigné notamment qui disait « Le roi et la reine d'Angleterre sont bien mieux à Saint-Germain que dans leur perfide royaume. Quant à Albion, eh bien, vous savez qu'Albion, ça fait peut-être référence aux falaises blanches de l'Angleterre. Hein. Albus, c'est blanc en latin. Mais ça fait surtout référence à Albion, qui était le fils de Neptune et qui était réputé, sous l'Antiquité, vivre là-haut dans ces îles bretonnes. Voilà l'origine de l'affaire. Bonjour Marion Ruggieri.